carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Le musée de Cluny, installé à Paris au cœur du quartier latin, appelé aussi Musée national du Moyen-Âge, présente l'exposition Paris, ville rayonnante. Plus de 200 œuvres, alors quand je dis œuvres, ce sont des vestiges architecturaux, des sculptures, quelques enluminures, quelques travaux d'orfèvrerie, sont réunis pour illustrer les arts parisiens du XIIIe siècle. Nous allons être, pendant toute cette émission, au XIIIe siècle à Paris. Précisons aussi qu'au XIIIe siècle à Paris, ce n'est pas tant l'architecture et les sculptures de ces églises qui sont rayonnantes, mais aussi la magnificence de sa musique. Et nous entendrons au cours de l'émission quelques chants des vêpres et des processions de Pâques à Notre-Dame de Paris au XIIIe. Xavier Dectot, commissaire de l'exposition, est avec nous et nous ouvre les portes de ce siècle rayonnant et peut-être même totalement fondateur. Bonjour Xavier Dectot.
Bonjour.
Vous avez choisi comme titre Paris, ville rayonnante. Je pense que c'est plus d'un titre, sans faire de jeu de mots. Parce que Paris, au XIIe siècle, restait comparable à d'autres villes du domaine royal. Alors, par exemple, Compiègne et Orléans. Mais vers 1190, la situation change. Et au XIIIe, Paris accède au statut de capitale européenne et mondiale de premier plan. Et ceci pour de nombreux siècles à venir. Quelles sont, Xavier Dectot, les origines de ce changement ? Pourquoi notre cité se place-t-elle au cœur de l'histoire maintenant ?
En fait, il y a plusieurs facteurs qui vont se combiner sur une période assez courte et qui vont totalement transformer le statut de Paris. Le premier, c'est un facteur politique qui est consécutif d'une défaite, la défaite de Frédéval. À Frédéval, Philippe Auguste, 1194, donc à Frédéval, Philippe Auguste non seulement perd une bataille, mais en s'enfuyant, il abandonne sur place les archives du royaume, puisque jusque-là, la tradition, enfin l'habitude était que les souverains, pas seulement les souverains français d'ailleurs, voyagent avec la chancellerie, avec toute leur administration et avec les archives et le trésor. Comme c'est un petit peu embêtant d'avoir perdu les archives, Philippe Auguste prend une décision importante.
De ne plus les déplacer.
Il décide de ne plus les déplacer, exactement, et de les installer en fait en un lieu central, centralisé, qui va être un de ses palais, le Palais de la Cité à Paris, l'actuel Palais de Justice. Et là, il va donc créer ce qui va être au départ un embryon, il va devenir vraiment une administration centrale du royaume. Et ce faisant, il change le statut de Paris qui passe de résidence préférée des rois de France à celui de capitale politique et administrative du royaume officiel. Autre facteur, indirectement, la guerre entre Capétiens et Plantagenets. Face aux menaces que font peser les Plantagenets sur le royaume, Philippe Auguste décide de fortifier la ville et donc de créer une enceinte. Cette enceinte, elle tourne tout autour de la ville et elle a la particularité par rapport aux enceintes précédentes, que ce soit l'enceinte romaine ou la première enceinte médiévale, celle du XIe siècle, mais aussi par rapport aux enceintes suivantes, l'enceinte de Charles V, plus tard l'enceinte des fermiers généraux, de ne pas englober simplement la ville telle qu'elle existe, mais aussi autour des espaces qui ne sont pas encore urbanisés.
Une petite campagne.
Voilà, exactement. Et il faut voir que dans le Paris de la fin du XIIe siècle, la campagne, elle est toute proche, puisque l'enceinte qui est créée, elle englobe une petite partie du premier arrondissement, à l'est du Louvre, une grande partie du quatrième arrondissement, un petit bout du 5e arrondissement, à peu près aujourd'hui entre la partie qui est située à l'ouest de Jussieu et au sud de la montagne Sainte-Geneviève, sur le flanc sud de la montagne Sainte-Geneviève, et une toute rive gauche et une toute petite partie du 6e arrondissement, puisque l'enceinte s'étend à peu près jusqu'au niveau du carrefour de l'Odéon et de la rue de Bussy, c'est-à-dire tout près de là où nous nous trouvons.
Le quartier latin.
C'est, voilà, la rive gauche, c'est le quartier latin. Mais il faut voir que ce quartier latin, à l'époque, il y a une abbaye, Sainte-Geneviève, et autour, il n'y a que des pâtures et des vignes. Donc, quelque chose qui est encore à construire. Et d'ailleurs, quelque chose qui va devenir le quartier latin, troisième grand facteur du développement parisien, En 1204, Philippe Auguste, qui sera suivi en 1215 par le pape, qui reprendra le flambeau, en fait, il redonnera un acte dans le même sens. En 1204, donc, Philippe Auguste reconnaît et organise les structures d'enseignement à Paris. Alors, les structures d'enseignement, elles existent depuis le XIe siècle. Mais Philippe Auguste crée donc ce qui est appelé l'Universitas Magistrorum et Studentorum Parisiensis, donc le rassemblement des étudiants et des maîtres de Paris, ou dit autrement, l'université. Historiquement, c'est la deuxième université à être organisée après celle de Bologne. C'est la première à porter ce nom. Bologne, c'est l'Alma Mater Studentorum. Et c'est aussi la première université...
Bologne, c'est au 12e.
C'est aussi la première université généraliste, puisque Bologne est une université de droit, alors qu'à Paris, on étudie aussi bien le droit que la médecine, que la théologie, c'est-à-dire la science de la création, c'est-à-dire pour l'époque, à peu près tout le reste. Il faut voir que dans ce qu'on enseigne dans la faculté de théologie à Paris, il y a évidemment la théologie au sens où on l'entend aujourd'hui, mais toutes les disciplines de la philosophie, et jusqu'y compris aux sciences expérimentales. Donc une
métaphysique.
Métaphysique, physique.
C'est ça.
Tout ce qui, en fait, ressort de l'étude de la création. Dernier facteur qui va aider au développement de Paris, en fait, c'est un facteur qui touche l'ensemble du XIIIe siècle, qui est celui d'un grand développement économique, le développement du commerce, notamment de tout ce qui va être commerce du drap, et l'importance prise par les villes sur les campagnes, et des villes qui sont des centres de commerce. Paris, qui pourtant sera dans le paysage français et plus large, a la particularité de ne jamais être une ville franche, mais toujours une ville placée sous l'autorité royale sans exemption d'impôts. Mais Paris se développe comme un centre commercial important, sous l'égide de gens qu'on appelle à l'époque les marchands de l'eau, qui vont devenir ensuite les marchands tout court, et qui, en fait, contrôlent le commerce. Et la chance de Paris, c'est d'abord le rôle que vont jouer ces commerçants qui vont jouer énormément pour le développement de la rive droite, et aussi de pouvoir s'appuyer sur un bassin environnant qui est un bassin très riche agriculturellement et où il n'y aura aucune disette pendant tout le siècle.
Ah oui, et on estime que la population parisienne a quadruplé au cours du XIIIe. De 50 000 habitants en 1200, elle est passée à 200 000 en 1300. Alors, c'est un petit peu en lien avec ce que vous venez de dire. Et quelles sont les raisons de cet afflux de population vers la cité? D'où viennent ces gens? Et quelles en furent les conséquences, j'imagine, matérielles et sur les mentalités?
De questions à la fois. Peut-être rappeler ce que vous avez dit d'ailleurs, ce ne sont que des estimations. Qu'est-ce qu'on a pour connaître la population? En fait, on a les documents fiscaux qui, à l'époque comme aujourd'hui, estiment les foyers fiscaux, les nombres de feux et non pas le nombre de personnes. Cela dit, pour prendre les choses au plus juste, 50 000 habitants à la fin du XIIe siècle, c'est une estimation haute. 200 000 habitants à la fin du XIIIe siècle, c'est une estimation basse. Donc la population a vraiment probablement quadruplé à cette époque. Pourquoi? Bien, la première raison, elle est assez simple, il y a de l'argent. On est sur une ville qui est une ville riche, une ville commerçante, une ville qui se développe.
Ce dont vous parliez, les marchands d'eau.
Les marchands de l'eau, donc il y a de l'argent.
Les marchands de l'eau, oui,
ce sont les marchands de l'eau. Ce ne sont pas des gens qui vendent de l'eau, ce sont les gens qui contrôlent la navigation sur la Seine. Donc ce sont les gens en fait qui contrôlent le commerce, puisque l'essentiel du transport se fait par la Seine. Et donc des gens qui d'ailleurs vont être ceux qui fixent les cours à Paris. Donc ce sont des marchands, au départ ce sont des transporteurs, mais ce sont les gens qui vont vraiment contrôler le marché à Paris.
On sait à quel point les transporteurs c'est capital dans une population. On sait tous que quand il y a des problèmes au péage, la ville est asphyxiée.
Exactement.
Donc c'était la même chose.
C'était exactement la même chose. Et donc on a une ville qui est riche par son développement économique, qui est riche aussi parce que la présence d'une administration centralisée va tout bêtement créer des emplois aussi et attirer une partie de la population. Et puis, il y a l'université. Donc, cette université qui, encore une fois, est la deuxième par ordre d'ancienneté, la première à être université généraliste, en un temps où le besoin de faire des études supérieures pour une petite frange de la population, mais ce besoin se développe. Et donc, Paris, comme un peu plus tard Oxford, comme Bologne, comme un peu plus tard Salamanque aussi, attire des étudiants, et là vraiment des étudiants du monde entier. On sait...
De l'Europe entière ?
Oui, de l'Europe entière.
Peut-être.
Pardon. De l'Europe entière.
Oui.
Très peu d'étudiants traversent l'Atlantique pour venir étudier à Paris au XIIIe siècle. Non, mais des étudiants de l'Europe entière et des enseignants de l'Europe entière aussi. Si on prend un exemple qui est assez significatif, le grand théologien du début du XIIIe siècle à Paris, qui va être le premier traducteur d'Aristote, c'est Albert le Grand, qui a laissé sa trace dans la topographie parisienne, puisqu'il y a une rue Maître Albert et une place Maubert.
Ah, c'est même. Lui. C'est la maître, place Maubert, c'est Albert.
C'est Maître Albert, en fait. Donc, Albert le Grand est allemand d'origine. Et parmi ses nombreux élèves, on va en trouver un qui s'appelle Thomas, qui est originaire d'Aquin, qui va avoir un certain poids,
rayonnement après
un certain
aussi.
Rayonnement intellectuel aussi, mais qui va, justement, il vient faire ses études à Paris, il va enseigner un temps à Paris. Donc, ça montre bien
la confluence
donc, intellectuelle qui se produit. Et aussi une confluence beaucoup plus large sur tous les aspects, parce qu'on est sur une ville riche et une ville qui se développe, et on a une sorte de cercle vertueux. Il y a de plus en plus de monde et de plus en plus de gens qui ont de l'argent, parce que c'est une ville riche, dont il y a de plus en plus de gens qui viennent, et la ville grandit et la ville se transforme. Parce que cette ville de 200 000 habitants à la fin du XIIIe siècle, ça n'est plus du tout la ville du début du XIIe siècle. Alors déjà dans la population, vous vous doutez bien qu'un quadruplement de la population...
Oui, alors d'où viennent tous ces gens ?
Un peu des naissances, évidemment.
Oui,
mais
la natalité,
mais essentiellement de l'immigration.
Oui.
Alors une immigration dont la première source sont les environs immédiats de Paris. Ce qu'on appellerait aujourd'hui la banlieue parisienne, qui à l'époque, le bassin parisien. Ensuite, les gens vont venir d'un peu plus loin. On en voit qui viennent notamment de Normandie, de Picardie, donc des régions limitrophes.
De Bretagne ?
Bretagne, peu. Plus la Normandie, la Picardie, les Flandres, la Champagne, ou d'encore plus loin. Et là, ça va être des gens qui vont venir d'Angleterre, qui vont venir d'Allemagne, de l'Empire, donc d'assez loin. Mais effectivement, si on regarde ce que l'on arrive à saisir de l'immigration, ce qui est forcément, on a quand même un fort tropisme vers le nord de l'Europe, le centre-nord
oui,
de l'Europe.
Plus que le sud, parce que le sud était peut-être en Italie.
Là, je parlais bien de l'immigration générale.
Oui, d'accord.
Les étudiants, eux, viennent encore une fois de toute l'Europe. Et il suffit de voir Thomas d'Aquin qui vient à Paris. Le phénomène est qu'effectivement, le développement, il y a un certain nombre d'autres villes qui vont se développer dans le sud, notamment à la même époque, bon, on pourrait parler de Toulouse, Barcelone, Montpellier,
oui.
Et qui vont peut-être plus attirer les populations oui. de ces régions. Après, c'est difficile à dire aussi.
Non, mais revenons à Paris, effectivement.
Voilà, Paris qui, juste pour donner une comparaison, donc c'est, avec 200 000 habitants, c'est la première ville d'Europe occidentale. C'est, d'après les données dont on dispose, la deuxième ville d'Europe après Constantinople. Mais les chiffres pour Constantinople sont toujours sujets à débat. Et pour donner un exemple à titre de comparaison, après Constantinople, la deuxième ville la plus peuplée d'Europe orientale, c'est Nicosie, sur l'île de Chypre, qui compte 26 000 habitants à la fin du XIIIe siècle.
Ah oui, ça c'est un bon paramètre,
ça fait,
on comprend ce qui se passe.
Une certaine différence. Des gens qui viennent de toute l'Europe, et ce qui va être intéressant, c'est que ce sont des gens qui viennent avec leur culture aussi, leurs habitudes, et que parmi ces gens, on va probablement trouver... On le sait pour la fin du XIIIe siècle, c'est clair. On va trouver aussi des maçons, donc des architectes, des sculpteurs. On a un exemple pour la fin du XIIIe siècle. Alors, dans la documentation, en fait, la seule œuvre connue de ce sculpteur se situe dans les années 1320, donc elle ne fait pas techniquement partie de l'exposition. Mais on a un sculpteur qui va apparaître dans les années 1280, qui s'appelle Guillaume de Norwich. C'est-à-dire en fait Guillaume de Norwich. Donc il vient d'Angleterre et il travaille à Paris. C'est un changement qui bouleverse la ville, évidemment, parce que c'est une population qu'il faut nourrir. Du coup, renforcement du commerce.
Oui.
C'est une population surtout qu'il va falloir loger, d'où construction de nombreux logements.
Des quartiers entiers.
Des quartiers entiers. Le Paris du début du XIIIe siècle, c'est l'île de la Cité, un petit îlot urbain autour de la plage de Grève, donc de l'actuel hôtel de ville, et un autre petit îlot urbain, tout neuf, qui est construit autour d'un territoire qui s'appelle alors le Champeau, qui vient de faire l'objet d'un accord entre l'évêque et le roi au milieu du XIIe siècle, pour être un lieu où se tient un grand marché, en fait, découvert, un grand marché de gros. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce quartier du Champeau, il va continuer à rester un quartier commerçant et un quartier de commerce. Ce sont les Halles.
Les futures
Halles. Ce ne sont pas les futures Halles, ce sont les Halles. C'est le moment où naissent les Halles.
D'accord.
On appelle encore le lieu du nom du lieu dit et pas du nom de la fonction, mais en fait, c'est ça, c'est la création des Halles de Paris qui vont rester là jusqu'à la fin des années 60, début des années 70.
Et alors, qui dit quartier dit forcément qu'il faut s'occuper des âmes, donc paroisse, donc église.
Tout à fait. On a déterminé un tissu paroissial dans Paris à la fin du XIIe siècle, en fait, dans les années 1160-1170, mais qui correspondait à la topographie du Paris de l'époque. Il y avait donc 23 églises sur l'île de la Cité, église paroissiale, s'entend, une église rive droite, pas d'église paroissiale rive gauche.
Une église.
Saint-Gervais-Saint-Protais. C'était la seule paroissiale de la rive droite au XIIe siècle. Arrive le XIIIe siècle. D'abord, l'ouverture de terrain à l'urbanisation par Philippe Auguste et des terrains qui, effectivement, vont s'urbaniser, se construire, d'où la nécessité de construire des paroisses, beaucoup plus rive droite que rive gauche. Parce que la rive gauche, on en reparlera probablement, mais ça va être le quartier latin, ça va être le quartier des étudiants. Donc, on est sur des gens qui sont, a priori, qui habitent moins là en permanence.
Une sorte de campus. Sont...
Le quartier latin, c'est exactement ça. C'est un endroit où on a des lieux d'enseignement et des lieux de logement pour les étudiants, ce qu'on va appeler les collèges, dont le plus célèbre, c'est bien évidemment le collège de Sorbonne, qui a été fondé par Robert de Sorbonne en 1252 et qui finira par donner son nom à l'université, mais qui n'est qu'un collège parmi d'autres. Alors, il a la particularité d'être le premier collège laïque, mais ça n'est pas le premier collège fondé. Avant, ont été fondés notamment le collège des Bernardins, qui subsiste encore. On pourrait en citer d'autres, des très grands comme le collège de Cluny, des beaucoup plus petits comme le collège de Bayeux. Certains ont subsisté très longtemps, mais avec une fonction différente. Le collège Sainte-Barbe, par exemple, est resté sous ce nom jusqu'au début du XXIe siècle, où le lycée Saint-Louis est à l'emplacement du collège d'Harcourt. Quant au lycée Louis-le-Grand, c'est un peu différent. C'est l'ancien collège Louis-le-Grand, qui est un collège confié par Louis XIV aux Jésuites, pour regrouper un certain nombre d'anciens collèges existants auparavant, comme le collège de Bayeux. Ces collèges, il faut bien voir que ce ne sont pas, comme aujourd'hui, des lieux d'enseignement, en fait. Ce sont d'abord des lieux de logement, et c'est fait pour loger les étudiants pauvres. Bon, on dirait, ça veut dire que c'est fait pour loger les étudiants. L'étudiant, il est pauvre par tradition. Donc, c'est fait pour loger les étudiants. Les étudiants, ils dorment, ils y mangent, ils y cohabitent avec des professeurs qui ne sont pas forcément leurs professeurs. Et ils peuvent y recevoir un peu de tutorat. C'est un système qui va être celui de toutes les universités d'Europe pendant pratiquement toute la période médiévale, et qu'aujourd'hui, pour le comprendre, en fait, il faut se rendre soit à Oxford, soit à Cambridge, parce que ce sont les deux dernières universités à avoir gardé ce système.
Effectivement, c'est le tutorat qui est mis en avant dans ces cas-là.
C'est oui. Avant même le tutorat, c'est le logement. Ce sont des lieux de logement séparés.
Alors, pour en revenir à nos projets architecturaux, quelles sont les caractéristiques de ces projets architecturaux et qui sont aussi décorés d'une nouvelle sculpture? Alors, pourquoi ces nouvelles visions artistiques? Comment est-on passé du gothique classique du XIIe au gothique rayonnant du XIIIe qui nous importe aujourd'hui au futur gothique flamboyant du XVe?
Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a plusieurs facteurs, mais celui que je vais peut-être mettre en avant ici, c'est le changement qui va se produire à Paris. Et qu'est-ce qui se passe? Simplement, on a une activité architecturale extraordinaire. Comme on a déjà connu au milieu du XIIe siècle, avec tous les chantiers autour de Saint-Denis, Notre-Dame, donc une série de chantiers sur une dizaine d'années.
Et un peu ponctuel. Là.
Un peu ponctuel. C'était la naissance du gothique, c'était une dizaine d'années de construction extrêmement importante. Là, on a une ville qui, parce qu'elle a un essor économique et un essor démographique extrêmement important, est un chantier permanent. Chantier permanent qui, du coup, attire des architectes, attire des maçons. Chantier permanent dans lequel, en plus, il y a de l'argent. Donc, on va pouvoir faire venir les meilleurs architectes.
Et puis, il y a de nouvelles méthodes techniques.
Voilà. Et en fait, c'est aussi pour répondre à ce besoin d'un chantier permanent, d'une construction permanente, on va développer des nouvelles méthodes techniques. La première caractéristique, c'est une certaine standardisation, au sens où les pierres qui vont être extraites des carrières, alors carrières qui sont des carrières de la région parisienne,
Paris, par exemple.
Les deux principales carrières utilisées au XIIIe siècle, c'est pour l'une la carrière qui se situe en fait aujourd'hui sous la rue Saint-Jacques au niveau de Saint-Jacques-du-Haut-du-Pas, donc sur la montagne Sainte-Geneviève, en dehors de la ville de l'époque, mais très près de Paris. On imagine un transport sur rondin de bois. Les autres carrières, elles sont importantes, elles sont à Charenton, donc là un peu plus loin, mais au bord de la Seine, donc assez facile.
Très facile aussi pour les faire arriver.
Oui. Et une des grandes chances de Paris, c'est effectivement l'abondance d'un calcaire lutétien de bonne qualité, donc avec différents types de bancs, certains qui sont meilleurs pour la sculpture, d'autres qui sont meilleurs pour
les fondations.
Construction, pour les fondations, et donc une relative abondance de pierres. Une pierre qu'en plus, pour répondre à cette multiplication des chantiers, les carrières vont se mettre à offrir, en fait, avec une certaine taille standardisée. Et à partir de là, on va apprendre aussi à mieux mettre en œuvre ces pierres. On a des grands progrès dans ce qu'on appelle la stéréotomie, c'est-à-dire l'art de construire, l'art de calculer les poussées, de répondre aux problèmes de structure.
Et de couper les solides, charpente et pierre, c'est ça la stéréotomie.
La stéréotomie, en fait, c'est l'art de rendre les choses solides, c'est l'art d'agencer la pierre.
D'accord.
Plus que l'art de la couper. C'est vraiment la façon dont on va agencer la pierre, ou d'ailleurs dont on agencerait le bois, pour que cela tienne. En fait, c'est l'art de la voûte. On le connaît déjà avant, mais là, on le maîtrise encore mieux, ce qui va avoir deux conséquences. D'abord, des voûtes, dans un certain sens, alors, peu à Paris, mais des voûtes qui vont être de plus en plus hautes, jusqu'à la cathédrale de Beauvais, et une meilleure maîtrise des forces qui fait qu'on est capable de faire retomber les poussées des voûtes sur des points très, très précis. Du coup, le reste du mur
peut être évidé.
Ne sert plus à rien, pratiquement à rien. Donc, on peut l'évider, le remplacer par du vide, par des fenêtres. Et on a une architecture qui, très vite, la fin des années 1220, va se mettre à jouer sur ce vide. Et finalement, va avoir tellement de fierté de cette capacité à créer du vide, donc à créer du décor sans limite, que même les parties nécessaires structurellement à l'architecture, tout ce qui va être soubassement, vont recevoir des décors qui vont être des décors en surface, qui vont faire disparaître la structure architecturale derrière un décor qui sera un décor, effectivement, qui joue énormément sur le vide, sur la disparition, en fait, du mur.
C'est-à-dire qu'on n'aura plus des décors plaqués sur un pan de mur, mais à l'intérieur du mur, il y aura de la dentelle de pierre.
Exactement. Il suffit de voir aujourd'hui un monument subsistant comme la Sainte-Chapelle, ou de voir ce que l'on sait d'un autre grand monument qui était la chapelle de la Vierge, la chapelle abbatiale de Saint-Germain-des-Prés. Suffit pour aller sur un bâtiment avec une autre fonction d'aller dans la bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers, qui est l'ancien réfectoire de Saint-Martin-des-Champs, pour voir comment, effectivement, assez paradoxalement par rapport à ce qui est l'histoire générale de l'architecture, mais comment, à ce moment-là, l'architecture choisit de se dématérialiser, de considérer qu'elle est d'autant plus grande qu'elle est invisible, contrairement à ce qui est l'histoire de l'architecture antique, de l'architecture romane, à ce que sera l'architecture classique, à ce qu'est essentiellement l'architecture aujourd'hui, où l'architecture
s'impose.
Ici, au contraire, l'architecture, elle cherche à se faire discrète
au profit
du vide, au profit de l'espace, au moins à l'intérieur, parce que ce genre de réussite architecturale n'est possible qu'avec un certain nombre de moyens techniques, notamment l'utilisation d'arcs-boutants et de contreforts assez puissants pour recevoir les poussées à l'extérieur. Et donc, à l'extérieur, cette dématérialisation de l'architecture est moins sensible qu'à l'intérieur. Là encore, il suffit d'aller regarder la Sainte-Chapelle et de voir la différence entre cette espèce d'araignée de pierre qu'on voit à l'extérieur et à l'intérieur, cette grande cage de verre. On parlait d'éléments techniques. Il y a un élément technique dont j'ai oublié de parler et qui pourtant est essentiel, c'est le fer. Au XIIIe siècle, on utilise largement le fer pour structurer les édifices. On scelle les éléments entre eux avec du fer et, y compris, on crée des vraies ceintures de fer qui vont tenir les monuments. Si vous allez à la Sainte-Chapelle, par exemple, on a des dessins de Viollet-le-Duc de la charpente qui nous montrent les tirants métalliques qui tiennent les voûtes en partie haute. Et si vous regardez bien comment sont faits les vitraux, vous apercevrez que vous avez deux ou trois grandes ceintures de fer tout autour de la Sainte-Chapelle et qui la tiennent ensemble. Donc, il y a aussi déjà l'utilisation de ce matériau nouveau qui est le fer, en quantité certes réduite, c'est un matériau qui est difficile à fabriquer, qui est coûteux, mais l'utilisation du fer pour mieux soutenir l'architecte.
Oui, il est coûteux quand il est de très bonne qualité. Oui. C'était ça qui est compliqué à l'époque, parce que c'était du charbon de bois, c'était pas du charbon de terre.
Non, et on utilise du charbon de bois, donc c'est assez compliqué, effectivement. Et c'est effectivement un fer qui est de très bonne qualité, parce que comparativement à des fers de période plus tardive, il s'oxyde très peu. C'est un fer qui s'est très très bien conservé avec le temps, mais là encore, parce qu'on a des méthodes de production qui, en revanche, ne permettent d'en produire qu'assez peu.
Nous allons parler de cette sculpture végétale omniprésente, superbe. Et j'aurais voulu un petit peu savoir pourquoi, tout à coup, bien sûr que nous avons tous compris, je pense que c'est parce que maintenant les façades étaient décorées, qu'on n'avait plus besoin d'avoir du poids sur les murs, donc on pouvait les décorer. Mais pourquoi ces thèmes-là ? Quelles sont les mentalités de tous ces artistes qui ont permis que ça soit tout à coup gracieux, aéré, léger et botaniquement intéressant?
Une certaine exactitude botanique, effectivement. Alors, en fait, il y a les mentalités des artistes et surtout probablement les mentalités des commanditaires. Il faut voir qu'on est au XIIIe siècle, comme au XIVe, au XVe ou encore au XVIIe siècle. L'artiste ne crée pas pour lui-même comme le fera l'artiste romantique. Il crée pour répondre à une commande, que ça soit une commande directe ou éventuellement la commande d'un marché. Mais il crée pour répondre à un besoin. Donc, il n'y a pas une libre création comme le sera celle...
C'est pas encore les arts libéraux, c'est un petit côté artisan, mais...
Non, pas du tout. C'est un côté artiste, mais où on a aujourd'hui une vision de l'artiste qui est essentiellement tributaire du 19e siècle et de l'idée de l'artiste maudit, c'est-à-dire l'artiste qui a en lui quelque chose.
Sa créativité avant
tout. Qui crée en fonction de cette créativité. Et si cette créativité répond à un marché, tant mieux. Si elle ne répond pas à un marché, il va mourir de faim dans sa chambre de bonne, mais il ne changera pas. Jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire aussi bien Pierre de Montreuil, architecte au 13e siècle, que Lebrun au 17e siècle, on crée pour répondre à un besoin qui est soit un marché, soit la demande d'un commanditaire. Et donc le commanditaire a un poids beaucoup plus important dans la création qu'au 19e ou au 20e siècle. Or, si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on va voir que les commanditaires parisiens, ils appartiennent à un milieu particulier, globalement. Ils appartiennent soit à la cour royale, à la chancellerie, soit ce sont des ecclésiastiques. Et pratiquement tous, en fait, ont été formés ou à l'Université de Paris, qui se développe à ce moment-là. Or, il y a eu un grand bouleversement dans l'université parisienne au début du XIIIe siècle.
Ah bon, quel est-il ?
On a évoqué la figure d'Albert le Grand. Et Albert le Grand, au début du XIIIe siècle, il traduit en latin un texte fondateur qui est la physique d'Aristote, texte qu'il traduit sous le titre révélateur de « De natura aut de rerum principis », donc de la nature ou du principe des choses. Cette traduction, elle est essentielle pour le XIIIe siècle, elle est essentielle bien au-delà, puisque c'est de la traduction de la physique d'Aristote que va naître ce qu'on appelle la scolastique, donc une nouvelle façon d'approcher la théologie, mais surtout une nouvelle façon de raisonner, une nouvelle approche logique des choses, qu'on pourrait résumer un peu rapidement, mais qu'on pourrait résumer...
Excusez-moi, Thomas d'Aquin a hérité aussi de cet aristotélisme.
À fait. Thomas d'Aquin, comme l'ensemble d'ailleurs des théologiens scolastiques.
Alors, qu'est-ce que l'aristotélisme et les sculptures végétales ? On l'en
vient. Oui, juste pour finir sur la scolastique, montrer l'importance qu'elle a. Le raisonnement scolastique, il est assez simple. C'est celui qu'on voit à l'œuvre dans la Somme théologique. C'est « j'ai un problème ». J'ai un problème, il fait beau aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il fait beau ? Pour répondre à ce problème, on va procéder en plusieurs étapes. Je sais que quelque chose, je sais parce que Aristote l'a dit, je sais parce que c'est écrit dans la Bible. Or, je constate autre chose qui est contradictoire. J'en déduis donc que ça, c'est le raisonnement scolastique, raisonnement en trois parties, raisonnement thèse, antithèse, synthèse. C'est la naissance de la pensée occidentale moderne. Donc, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Mais du point de vue qui nous intéresse directement, de celui de l'esthétique, l'aristotélisme, c'est d'abord la reconnaissance du rôle des arts plastiques. Le monde précédent, le monde néoplatonicien, ou plutôt néoplotinien pour être exact, est un monde qui est très marqué, là aussi pour être un peu caricatural, par l'esprit de la République de Platon. Je vous rappelle que dans la République de Platon, les artistes n'ont rien à faire dans la cité, à part les musiciens. Et on a en fait une méfiance vis-à-vis des sens. Chez les platoniciens, c'est le mythe de la caverne. Et les aristotéliciens du XIIIe siècle prennent les choses dans un sens différent. Ils partent du principe, accepté aussi par les platoniciens et de toute façon nécessaire dans un contexte biblique que la création est parfaite. La création est œuvre de Dieu, elle est donc parfaite par essence. Mais, observent les aristotéliciens, la perfection ne peut pas naître de la chose de deux sommes imparfaites.
Donc toutes les petites choses sont parfaites.
Voilà. Donc, si on décompose la création, elle est composée d'éléments qui sont parfaits. Et l'esprit humain ne peut pas comprendre la création dans sa globalité. La perfection de la création dans sa globalité, c'est un tout beaucoup trop grand pour nos esprits. En revanche, pour qui veut comprendre la perfection de la création,
on passe par tous ces petits
éléments. Il suffit d'observer les
éléments
les plus fins de la création, les plus petits, effectivement, mais qui sont aussi des éléments parfaits.
Oui.
Et si on comprend leur perfection, on s'approchera de la perfection de la création divine. C'est pour ça qu'effectivement, dans l'Université de Paris, à ce moment-là, on développe des chaires qui vont être des chaires de sciences expérimentales, parce qu'on s'intéresse aux détails de la création. Et ça a une conséquence, effectivement, dans le domaine de la création artistique aussi, parce que qu'est-ce qu'on va faire ? Si on veut représenter la perfection, on ne va plus aller rechercher, faire des représentations symboliques.
Oui, mais on va prendre,
idéaliser.
On va prendre du concret.
On va prendre du concret, on va prendre quelque chose. Là où le chapiteau, il est végétal depuis toujours, ou presque. Mais au lieu de représenter des feuilles idéalisées,
des choses qu'on ne connaît pas,
on va représenter des feuilles qu'on connaît. Et pas n'importe lesquelles de ces feuilles qu'on connaît. On va choisir quelque chose qui représente vraiment la perfection de la création en elle-même, c'est-à-dire quelque chose qui n'ait pas été modifié par l'homme. Donc plutôt que d'aller chercher la nature immédiatement aux abords de Paris, qui est une nature de pré, une nature de champ aussi,
une campagne agricole,
on va aller un petit peu plus loin.
Dans les bois,
exactement. Donc pas très très loin, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, mais un petit peu plus loin à l'échelle du Paris d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, si vous voulez faire un aller-retour au Bois de Boulogne, à la lisière du Bois de Boulogne, en partant de la limite occidentale du Paris du XIIIe siècle, c'est-à-dire du Louvre, il faut bien compter 6 heures aller-retour à pied. Avec les chemins de l'époque, vous pouvez considérer que vous y passez votre journée ou alors vous y allez à cheval, mais c'est quand même une destination un petit peu lointaine. C'est un peu comme aujourd'hui aller dans sa maison de campagne. Ça se fait, mais on ne le fait pas tous les jours et on y va aussi parce que ça change.
Parce que dans les bois, c'est la nature sauvage. C'est pour ça qu'ils sont allés représenter ces guirlandes de feuilles de lierre.
On trouve du lierre, on trouve de la vigne vierge. On trouve peu de fougères. On trouve lierre, vigne vierge, chêne, platane, érable. On trouve de la rhubarbe, qui est un cas un petit peu à part. On trouve quelques fleurs, mais qui sont aussi des fleurs de sous-bois, de l'églantine, de l'aubépine. Exceptionnellement des roses. On va trouver des boutons d'or aussi. Là, on est un peu plus sur une nature champêtre. Mais donc, toutes ces plantes que l'homme ne cultive pas pour lui-même, qu'il peut utiliser. Hein. L'homme utilise le chêne pour la construction, mais qu'il ne cultive pas. Et donc, toutes ces plantes qui, finalement, prises dans leurs détails, sont des représentations en tout petit de cette perfection de la création comme un tout. D'où aussi une observation très attentive de ces plantes et des plantes qu'on va représenter
dans leur vérité botanique.
Dans leur vérité botanique jusqu'à un certain degré. Et c'est là où on voit bien le lien entre cette culture végétale et le monde aristotélicien, c'est que on voit quand même que cette nature, on l'analyse, on la classifie, on la pense. Le chêne, par exemple, on pourrait prendre le lierre, la vigne vierge, pousse exactement de la façon dont le chêne ou la vigne vierge ou le lierre va pousser dans la nature. Mais pas n'importe comment. On essaye de comprendre comment il pousse et de représenter la façon dont il pousse.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des branches de chêne qui sont arborescentes, mais il y a des guirlandes de lierre qui sont un petit peu envahissantes. C'est le principe même, la vérité de la nature.
Exactement.
Il y a
un véritable naturalisme, quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps et qu'on ne retrouvera que beaucoup plus tard à ce degré d'observation et de volonté de geler. Mais encore une fois, une nature qu'on analyse aussi, une nature qu'on pense.
Beaucoup plus tard, vous pensez à l'Art Nouveau, à la fin du 19e, après les événements démographiques, économiques du 19e.
Je pensais avant l'Art Nouveau, je pensais déjà à une certaine peinture de paysage du 19e siècle en général. C'est évident que l'art du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle notamment, ou du début du 20e siècle, regarde largement vers le Moyen-Âge. C'est d'abord parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de bouleversements économiques, démographiques. Il y a aussi le regard ambivalent vers un Moyen-Âge à la fois qui apparaît à la fois comme une période perdue et comme une période lointaine, un petit peu exotique. Et il y a le fait que, avec la découverte du fer, l'utilisation
de nouveau,
mais l'utilisation ici systématique du fer, l'architecture va évoluer justement là aussi dans un sens du vide et on a deux goûts qui se répondent. Au moment finalement, autant de Viollet-le-Duc, de Lassus et d'un certain nombre d'autres architectes qui ont une vraie conscience patrimoniale, au moment donc où va se développer l'architecture néo-gothique, on a aussi les moyens qui permettent de faire dans d'autres matériaux, des matériaux modernes, des choses qui correspondent effectivement au goût du XIIIe siècle, parce que c'est le même goût du vide, le même goût de l'air, le même goût du verre, le même goût de...
De la nature aussi, art et nature. Aussi vous demander, parce que nous parlons de la nature, mais j'ai été aussi très charmée par les sculptures, par le charme des sourires ineffables, très doux. Je pensais que c'était les premiers beaux sourires des anges venaient de Reims, mais non.
Non.
C'est Paris.
C'est Paris, c'est toujours Paris. En fait, l'un des intérêts, si je puis m'auto-jeter des fleurs, l'un des intérêts de l'exposition, c'est de mettre en avant que l'art à Paris au XIIIe siècle est beaucoup plus complexe que l'image que l'on en a généralement, et qu'on y voit effectivement apparaître, pas forcément dans les très grands monuments, les monuments que l'on regarde toujours, comme la Sainte-Chapelle notamment,
Notre-Dame,
mais on y voit apparaître très tôt un certain nombre de phénomènes qui vont ensuite effectivement se répandre à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe. Et c'est vrai que sur l'intérêt pour le visage, mais là aussi en fait on est dans cette même recherche de la perfection, mais d'une perfection qui ne soit pas une perfection idéalisée, une perfection symbolique, mais stéréotypée, mais une perfection dans le détail. Alors, on n'est pas dans le portrait, mais on est dans une recherche de perfection, d'individualisation des visages, et on a aussi un souci d'équilibre, un souci d'élégance, que l'on voit apparaître effectivement à Paris dès la fin des années 1220, début des années 1230, qu'on retrouvera après dans des endroits comme le Jubé de Chartres ou le Jubé de Bourges, et dont effectivement, pour nous aujourd'hui, la manifestation par excellence, c'est l'Ange de Reims ou l'Annonciation de Reims, dont des sculptures un petit peu plus tardives.
Oui, avec les cheveux joliment frisés, et puis les drapés qui font que maintenant les drapés ne sont plus que dans le sens vertical, mais aussi oblique, si bien que les statues ont l'air de s'envoler un peu parfois.
Oui, la caractéristique finalement de cette sculpture du XIIIe siècle, c'est une certaine légèreté, une certaine élégance.
Souplesse aussi.
Une souplesse. Et presque une distinction. Alors,
oui, une préciosité.
Préciosité, oui. Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, ça va vraiment basculer dans une vraie préciosité. Alors, de façon très différente, Paris, par rapport au reste de la France et au reste de l'Europe, va toujours rester dans une certaine retenue de ce point de vue-là, par rapport à ce qu'on verra, donc déjà les sourires un petit peu exacerbés de Reims, ou ce qu'on verra plus tard, à la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, à Strasbourg ou dans des régions encore plus orientales, avec l'expressionnisme exacerbé de figures donc comme le Tentateur de Strasbourg ou les Vierges folles de Bamberg, par exemple.
C'est-à-dire que Paris ne tombera pas trop dans le baroque.
C'est un peu tôt pour parler de
mais
baroque,
de
mais Paris,
pourrait devenir le baroque,
oui, Paris,
garde mesure.
L'art parisien reste très mesuré, très posé, mais effectivement avec une certaine préciosité qui va devenir de plus en plus flagrante à mesure que le temps passe, avec des figures qui seront de plus en plus fines, de plus en plus dansantes.
Oui, mais c'est ça la suprême élégance. C'est être posé, mais avec légèreté. Est-ce que cet art rayonnant est un art total ? Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments artistiques qui sont eux aussi touchés par cette contagion ?
En un sens, oui. C'est vrai que c'est une question qu'on pose dans l'exposition de façon un petit peu provocatrice. Mais oui, en un sens. Une des caractéristiques de l'art rayonnant, de l'architecture rayonnante, c'est l'omniprésence du décor. Mais d'un décor qui répond aussi à une certaine, on l'a dit au départ, à une certaine standardisation dans certaines productions, et du coup un décor qui est fait pour pouvoir être décliné dans des tailles très différentes. Et d'ailleurs un décor, on le voit à la façade de Notre-Dame, qui se cite lui-même, on retrouve dans des petits détails de Notre-Dame, des citations de grands éléments architecturaux de Notre-Dame. Et dans cette modularité, si je puis dire, du décor rayonnant, fait que dès le milieu du XIIIe siècle, on va le retrouver cité, littéralement, utilisé en fait comme cadre, comme élément structurant, pratiquement dans tous les autres arts. C'est vrai, évidemment, dans l'enluminure. où on va voir avec des œuvres comme les Évangéliaires de la Sainte-Chapelle, le Psautier de Saint-Louis, qui est plus tardif.
Où mais... on voit des petites chapelles, des petits clochers.
Voilà, les scènes qui se passent en intérieur sont assez naturellement, et ça se faisait déjà avant, placées sous des éléments architecturaux. Mais même les scènes qui se placent en extérieur, effectivement, sont placées sous des arcatures, au-dessus desquelles on a des gables, en fait, vraiment comme une église prise en coupe, avec des pinacles décorés avec des décors de crochets. Donc vraiment une sorte de représentation à la fois de ce qu'est l'architecture rayonnante dans son ensemble. Encore une fois, on a l'impression de voir une église en coupe. Mais en fait, ces éléments-là, c'est aussi des éléments qu'on retrouve appliqués sur les murs, sur les socles, dans l'architecture rayonnante, donc déjà dans l'architecture reprise à petite échelle. C'est vrai dans l'enluminure, mais c'est tout aussi vrai dans l'orfèvrerie. On en a un exemple dans l'exposition avec un petit reliquaire qui provient de la Sainte-Chapelle, qui est d'ailleurs le seul reliquaire subsistant aujourd'hui du trésor de la Sainte-Chapelle. On en a des exemples dans l'ivoire, et on en a même un exemple assez étonnant dans le mobilier avec un gigantesque coffre à grains qui fait plus de 3 mètres de large. On a un décor d'arcature plaqué aussi. Toujours cette reprise de motifs architecturaux dans tous les autres arts. Donc oui, en un sens, l'art rayonnant est un art total, en tout cas. Ce sont des structures artistiques qu'on retrouve dans toutes les pratiques artistiques à Paris et au-delà.
Eh bien, ce XIIIe siècle est un siècle d'or, d'une certaine manière, pour les arts parisiens. Et nous vous remercions de nous avoir plongés en plein XIIIe. Merci Xavier Descaux.
C'est moi qui vous remercie.